France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Gaïa, c'est le nom que les Grecs donnaient à la terre. Gaïa, grande dame éternelle et impressionnante, Lady Gaïa, et cette immense déesse qui fait naître tous les êtres vivants que l'on voit grouiller partout, sur la terre, dans les airs et dans la mer. Divinité fondatrice et travailleuse, elle a donné sa forme définitive au monde dans lequel nous vivons. Elle a engendré le ciel étoilé, la mer, l'océan. Elle a aussi fait pousser les montagnes, couler les fleuves et se creuser les abîmes presque infinis sous la terre. Mais pour façonner cet ordre des choses, cette beauté du monde que les Grecs anciens appelaient le cosmos, ça a été plus que dur. Gaïa a dû lutter, calculer, tromper, être cruelle. La très belle, très féconde déesse Terre, la magnifique et généreuse Lady Gaïa a dû se montrer rusée, manipulatrice et souvent très méchante.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Le problème pour la féconde Gaïa était que plusieurs des grands êtres masculins qu'elle a mis au monde avaient la fâcheuse tendance de vouloir arrêter la fécondité de leur mère. Une fois nés, une fois leur pouvoir assuré dans le monde, ils voulaient être seuls et empêcher les autres de naître. Gaïa a dû résister contre sa propre progéniture. Heureusement, la magnifique Lady Gaïa a plus d'un tour dans son sac, plus d'une ruse dans sa tête. Elle est arrivée chaque fois à débloquer la situation, à permettre à la vie de proliférer. Mais chaque fois, elle a dû lutter contre des enfants abusifs. D'abord, si on en croit le poète grec Hésiode, dont par bonheur nous avons conservé le poème sur la naissance des dieux, Gaïa a engendré toute seule le dieu ciel Ouranos, l'étoilé. Puis, elle a couché avec lui son fils pour faire naître beaucoup de dieux. Mais l'amour de ciel était étouffant. Il ne laissait pas ses enfants sortir du ventre de leur mère. Gaïa en a eu assez. Or, elle était très maligne, réfléchie. Elle ne se contentait pas d'être une puissance féconde de reproduction, d'engendrement. Gaïa était aussi une tête pensante, rusée et très habile en techniques de toutes sortes. Puisqu'elle n'arrivait pas à faire sortir à la lumière ses enfants, elle s'est repliée sur elle-même, elle s'est creusée. Elle s'est livrée à un véritable travail du négatif, diraient les psys aujourd'hui. Se repliant dans une de ses cavités profondes, elle a fait naître en secret un filon de métal. Puis elle a forgé ce métal et fabriqué une longue serpe bien acérée. Elle a demandé à ses enfants qui serait capable d'user de cette serpe pour châtrer leur père quand il viendrait en elle. Le petit Cronos s'est porté volontaire. Et un soir, il a coupé le sexe de son père. Le dieu ciel Ouranos n'a pas aimé du tout. Furieux, il s'est retiré. C'est pour ça que le ciel est désormais bien stable, loin au-dessus de notre tête. La castration a créé un espace libre pour que vivent les êtres issus de Gaïa. Quant au sexe coupé du père, le ciel, il a été jeté à la mer, pas pour rien. Une écume s'est formée autour de lui, et c'est dans cette écume qu'est née la sublime déesse de l'amour, Aphrodite, la Vénus des Romains, qui est sortie en toute beauté des vagues de la mer. L'amour, le désir, pouvait se déployer dans le monde et faire naître des milliers d'êtres vivants, et des guerres aussi, car on tue souvent par amour. Gaïa avait une idée en tête, que la vie puisse se développer et proliférer. Mais pour cela, elle devait être rusée, manipulatrice, fourbe, cruelle. Il fallait qu'elle empêche les dieux qu'elle avait fait naître de vouloir prendre toute la place dans le monde. De vouloir imposer un pouvoir absolu et bloquer ainsi toute forme de vie. Gaïa voulait que la vie se renouvelle de génération après génération. Ça demandait de la réflexion, de l'artifice. Il fallait que Gaïa, au lieu de pousser des enfants vers le dehors, se replie sur elle-même, entre dans ses propres creux, ses cavités, pour en secret élaborer des ruses, des pièges. C'est comme ça, par ce retrait, par ce repli obscur, que la vie, dont Gaïa est le principe, dont elle est l'énergie, pourra se développer. Son fils, Cronos, qu'elle avait aidé à prendre la place de ciel, son père, a voulu être un tyran comme son père. Gaïa s'arrange pour le détrôner à son tour en inventant une ruse et elle remplace son fils Cronos par son petit-fils Zeus. On a donc pu dire de Cronos qu'il était un coupeur coupé. Il a châtré son père et son fils l'a, sinon châtré, du moins rendu impuissant. Ce fils de Cronos, Zeus, pouvait lui aussi avoir des prétentions tyranniques. Gaïa fait alors naître contre lui un monstre épouvantable, Typhée ou Typhon, qui rappellera à Zeus qu'il ne contrôle pas tout. Zeus finit par abattre ce monstre avec sa foudre, mais Typhée continue à sévir encore aujourd'hui en déclenchant à l'improviste des tempêtes, des typhons effrayants. Après la victoire de Zeus, Gaïa continue à orienter la marche du monde sur un mode plus pacifique. On retrouve alors la Gaïa qui réfléchit, qui analyse. Elle incite Zeus, le vainqueur, à retenir sa force, à ne pas faire le tyran comme son père Cronos et son grand-père Ciel. Elle le pousse à instaurer chez les dieux un ordre politique qui soit mesuré, équilibré. Elle incite Zeus à ne pas exercer un pouvoir absolu, mais à répartir le pouvoir entre tous les dieux en instituant un partage bien réglé et accepté par tous. Zeus, grâce à Gaïa, n'est pas un tyran, mais un souverain qui fait respecter la loi qu'il a instaurée, une loi de la juste répartition. En grec, loi et partage, c'est le même mot, nomos. La nature chez les Grecs est aussi une bonne politicienne. C'est comme ça qu'un ordre naturel des choses s'est mis en place, ce que les Grecs appelaient un cosmos, c'est-à-dire un bel assemblage de tous les êtres, un monde magnifique et total. Mais nous, les mortels, quelle est notre place dans ce monde produit par Gaïa ? Ce monde est beau, soit, mais notre existence est souvent misérable, difficile. Nous mourons, apparemment tous. Nous sommes souvent emportés par les catastrophes, par la misère. Nous devons travailler dur pour subsister, pour que le blé, d'abord enfoui dans la terre, sorte à la lumière et nous nourrisse. Nous dépendons de Gaïa, puisqu'on dit que nous sommes comme les plantes, nées de la terre. Nous sommes fabriqués avec cet élément, la terre, qui constitue tout ce qu'il y a de solide dans notre corps. Mais quel est notre rôle dans ce cosmos ? En fait, nous dépendons aussi d'autres divinités que Gaïa. Au début du monde, avant même la naissance de Gaïa, existait, selon le poète Hésiode, une autre divinité, la première de toutes, le dieu Chaos. C'était un grand vide, une grande ouverture turbulente. De ce vide initial est née la déesse Nuit, qui a engendré le jour. Le temps a ainsi trouvé son rythme binaire, immuable, dans la succession mécanique nécessaire des nuits et des jours. Puis la déesse Nuit a engendré des puissances divines, qui viennent limiter ou détruire notre existence humaine. Le dieu de la mort, Thanatos, les divinités du destin, les Moires, qui coupent le fil de nos vies quand elles sont arrivées à leur terme. Nuit a aussi mis au monde par sa fille Querelle toutes les formes possibles de haine, de violence qui détruisent les sociétés et les individus. Nous, les humains nés de la terre, nous sommes aussi des êtres nocturnes. Nous avons en nous une grande part de nuit. Nous sommes soumis, sans pouvoir rien y faire, à l'alternance mécanique irrémédiable de la nuit et du jour. Tout ce que nous réussissons à faire le jour peut être effacé par l'obscurité de la nuit. Et nous dépendons de la mort, fille de la nuit. Comment peut-on s'en tirer malgré tout ça ? Encore une fois, Gaïa la généreuse, l'intelligente, la rusée, va essayer de nous faire une place, très limitée, petite, mais une place. Et elle nous empêchera de vouloir trop, alors elle se montrera cruelle. D'abord, Gaïa va s'assurer de la survie de notre espèce. Ce n'était pas donné. On nous raconte que Zeus, une fois qu'il a renversé son père Cronos, a réparti les différents pouvoirs sur le monde entre tous les dieux, de manière équitable, de manière que chaque dieu, chaque déesse ait son propre domaine à gérer. Mais Zeus, dans sa distribution des pouvoirs, a complètement oublié les humains, ou plutôt, il les a négligés, exprès. Les humains existaient déjà sous le règne de son père Cronos. En fait, on ne sait pas bien quand ils sont nés. Mais avec l'arrivée de Zeus, ils n'avaient plus rien. Zeus avait décidé de supprimer la race humaine telle qu'elle existait. C'est ce que raconte le poète athénien Eschyle dans sa tragédie Prométhée enchaîné.
Prométhée.
Sitôt installé sur le trône de son père, Zeus distribue les dignités entre les dieux, à chacun son domaine. Il traçait devant lui le cadastre de la souveraineté. Mais des hommes, les malheureux, il n'a tenu aucun compte. Il voulait effacer leur race entière pour en planter une nouvelle.
Un seul dieu va venir au secours des hommes, un fils de Gaïa, selon cette version de l'histoire, à savoir le dieu Prométhée. Prométhée était un dieu intelligent comme sa mère Gaïa. Il connaissait et comprenait tous ses projets. Et comme sa mère, c'était un dieu malin, fourbe et rusé, comme il faut l'être quand on va s'opposer à un maître tel que Zeus. Prométhée va tout faire pour que l'humanité survive.
Moi, l'audacieux, j'ai délivré les hommes. J'ai empêché qu'ils descendent, broyés aux enfers.
En cela, Prométhée est fidèle à sa mère Gaïa, déesse des engendrements, de la fécondité, de la succession des générations. Gaïa savait tout ce qui devait s'accomplir dans le futur et elle veillait à ce que le temps reste ouvert, même pour ces petites choses presque insignifiantes que sont les êtres humains.
Dans mon sous-sol crasse où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut, regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez, la place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle mes diables et mes hommes et Dieu même en personne tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamer sur un ton formidable. Le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elle soit victime ou qu'elle soit complice de leurs malheurs et fils et de leurs maléfices, frappez dans les premiers talibans ordinaires ces démons adorés car il faut les faire taire. Lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles dans vos brûlants et moi, ainsi que je l'ordonne. Allez, appelez-moi patronne. Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes, vous mes sœurs les salopes, les putains et les bestes. Derrière chaque type, sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. Calcinée, lascive et si cruelle, je vous attends, venez, mes belles demoiselles, que votre dernier mot, que la vie abandonne, soit dans un soubresaut, patronne! En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges et vos histoires de fesses. J'encourage le vice, je provoque des guerres, je dirige le monde et Dieu me laisse faire. Parce que Dieu se fout bien de vos petits tourments, avec ses anges blancs dans son blanc firmament. Dieu est tellement belle, c'est une femme généreuse, mais ne vous y fiez pas, ça déguise l'humeur. À l'appel. Et pour me faire venir d'une voix qui frissonne, il suffit de redire patronne.
Pierre Judet de Lacombe raconte comment Lady Gaïa, la déesse Terre, a soutenu l'humanité.
Gaïa savait que Zeus n'était pas assuré du tout de rester éternellement au pouvoir. Son trône était en danger, comme l'avait été celui de son père Cronos. Et Gaïa savait que ce sont les mortels, ces êtres si faibles, qui allaient le sauver. La plupart des dieux ne pouvaient pas comprendre un tel paradoxe, tellement pour eux, les humains étaient négligeables. Son fils Prométhée avait compris. Il commence par donner aux humains le moyen de subsister en leur apportant le feu. Zeus le leur avait ôté. Prométhée va dans le ciel chez les dieux olympiens et vole le feu divin. Il l'apporte aux hommes. L'histoire est bien connue. C'est lui, Prométhée, qui leur enseigne par la même occasion toutes les techniques qui permettent à une société humaine de vivre. Comment faire des briques grâce au feu et construire des maisons. Et aussi comment élever le bétail, courir sur la mer avec un bateau, s'orienter avec les étoiles. Tout ce qui fait des êtres humains les artisans de leur propre existence. Comme Zeus n'a donné aucun pouvoir aux hommes, l'humanité ne dispose que d'une seule ressource pour s'assurer la possibilité de vivre, la maîtrise des nombreuses techniques qui la protègent contre des forces extérieures plus fortes qu'elle. Prométhée a même appris aux hommes et aux femmes à ne pas se soucier de la mort, à ne pas être obsédés par elle. Avec le feu, avec toutes les techniques que Prométhée leur a offertes, les humains ont la possibilité de voir plus loin que la réalité immédiate, de transformer les choses. Ils peuvent ne plus penser sans cesse à la mort inexorable qui les attend. Ils peuvent imaginer des projets et avoir l'espoir qu'ils allaient réussir. L'espoir peut être une illusion, mais au moins, il arrache à la peur de la mort. Prométhée, dans la pièce d'Eschyle, explique cela au cœur de la tragédie, qui ne comprend pas vraiment comment un espoir souvent aveugle peut-il être un bien. Comme sa mère Gaïa, Prométhée le rusé, s'est transformé une faiblesse en ressource.
J'ai fait que les hommes cessent d'anticiper leur mort.
Et qu'as-tu trouvé comme remède à cette maladie ?
J'ai logé dans leur cœur les espoirs aveugles.
Il est grandiose l'avantage que tu as donné aux hommes.
Zeus, évidemment, est furieux d'avoir été berné. Il voulait supprimer l'humanité, et voilà qu'elle survit, qu'elle se développe, avec le feu et les techniques. Elle ne pense même plus à la mort. De rage, Zeus cloue Prométhée qui l'a trahi à une montagne, battue par le froid, le vent ou par la chaleur du soleil. Mise au supplice, Prométhée invoque sa mère et les forces de la nature.
Azur divin, souffle au vol rapide, rivière ruisselante et l'innombrable éclat de rire des vagues de la mer. Terre, mère de toutes choses, et toi, disque du soleil qui voit tout, je vous appelle. Voyez ce que font les dieux. À moi, un dieu.
Cloué à son rocher, Prométhée tient bon. Il sait que ce Zeus qui fait le fier et le torture est en grand danger et qu'il pourrait bien ne pas régner toujours. Cela, Prométhée le sait par un secret que lui a confié sa mère Gaïa, la grande prophétesse, maîtresse du temps. Gaïa sait que Zeus va perdre son pouvoir s'il s'unit à une déesse qu'il désire. Car le destin veut que cette déesse, dont Prométhée refuse de dire le nom, ait un fils beaucoup plus fort que son père. Si Zeus couche avec elle, c'est foutu pour lui. Il sera détrôné. Or, Zeus désire cette déesse. Mais il ne sait pas ce qu'il attend s'il lui fait un enfant. Ce fils qu'il n'a pas encore conçu lui apporterait une chute abominable.
En ce moment, Zeus se fabrique contre lui-même un champion, un monstre qui sera impossible à battre, qui inventera une flamme plus puissante que la foudre, un fracas plus violent que le tonnerre. Et le trident marin, ce mâle qui agite la terre, l'arme de Poséidon, il le décomposera. En se cassant contre ce malheur, Zeus apprendra à mesurer l'écart entre pouvoir et esclavage.
Prométhée, évidemment, refuse de dire le nom de la déesse que Zeus ne doit pas convoiter. Et Zeus, évidemment, s'énerve. Il menace Prométhée, qui refuse toujours de parler. Zeus lui réserve une torture encore pire. Un aigle viendra chaque jour lui manger le foie qui aura repoussé la nuit. Prométhée, le dieu, sera donc soumis, comme les humains, à l'alternance implacable de la nuit et du jour.
Ô terre, ma mère fabuleuse, ô azur, qui roule la lumière commune à tous les êtres. Vous voyez l'injustice que je subis.
Le secret de Gaïa et de Prométhée concerne directement les mortels. Zeus, s'il voulait ne pas être abattu par un fils plus fort que lui, ne devait pas épouser la déesse marine Thétis, l'une des 50 Néréides. C'est elle qui devait engendrer un enfant mâle plus fort que son père. Comme Zeus, au bout de nombreuses générations, finit par libérer Prométhée en faisant intervenir un mortel, Héraclès, fils de Zeus et d'une femme humaine, Prométhée révèle le nom de la déesse que Zeus ne devait surtout pas épouser. Zeus tient compte de cette révélation. Il ne s'unit pas à Thétis, mais donne, si on peut dire, Thétis la convoitée à un mortel, à un brave héros nommé Pélée, qui avait pas mal de mérite. Il avait été de l'expédition de Jason avec les Argonautes. Si ce Pélée a un fils plus fort que lui, ce ne sera pas grave pour Zeus. Thétis, qui n'avait aucune envie de se marier à un humain, résiste, mais doit céder. Et c'est comme ça que naîtra Achille, le guerrier surpuissant et ultra-glorieux. Non seulement Gaïa et son fils Prométhée ont sauvé l'humanité, mais ils ont permis au plus fort, au plus éclatant des humains de voir le jour. Avec Achille, l'humanité a acquis une gloire, un honneur. Il a fallu des ruses. Gaïa a dû laisser son fils Prométhée exercer tous ses talents d'inventeur, de madré. Prométhée, avec le feu, avec sa science, avec l'invention de ses techniques, a permis aux humains d'avoir leur place dans la longue suite naturelle des générations issues de Gaïa. Nature et technique ne s'opposent pas pour les humains. Au contraire, elles ont ensemble, indissociablement, fabriqué leurs conditions premières. La technique permet à la nature de se déployer. Gaïa n'a pas toujours été aussi soft, aussi accommodante avec Zeus. Force terrienne de la prolifération, elle a pu voir d'un très mauvais œil la violence de son petit-fils Zeus quand il a éliminé la génération qui l'a précédée, la génération des titans, les frères et sœurs de Cronos. Ces titans étaient des enfants de Gaïa. À côté de la version plutôt douce d'une Gaïa mère de Prométhée, conseillère politique de Zeus, et soucieuse, en fait, de préserver son règne, les Grecs ont élaboré et ont diffusé une autre histoire qui est très violente. Ils ont imaginé d'autres enfants de Gaïa, pas des raffinés comme Prométhée, mais des brutes, les géants, des êtres immenses, redoutables. Gaïa les a fait naître pour s'opposer à Zeus et à son pouvoir. L'enjeu de ce conflit ne sera pas seulement la souveraineté de Zeus, mais d'abord la dignité des humains. Zeus a gagné, mais encore une fois, Gaïa a réussi à mettre en valeur l'humanité. Furieuse contre Zeus, Gaïa, avec son mari Ciel, on ne sait pas bien comment, engendre une famille de créatures vraiment affreuses, les géants nés de la terre. Nous n'avons malheureusement pas de poème ancien sur ces monstres et sur leur combat spectaculaire contre Zeus et les autres dieux de l'Olympe. Seulement des allusions et le résumé qu'en a écrit un érudit tardif du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ. Mais leur mythe, leur bataille gigantesque contre les dieux, la gigantomachie, était très connue depuis longtemps. Les géants faisaient peur, très essentiels, ils étaient mortels, comme les humains.
Gaïa, terrifiée du sort réservé aux titans, engendra de Ciel, Uranos, les géants, d'une taille insurpassable et d'une force invincible. On les regardait avec effroi. Ils laissaient retomber une épaisse toison de leur tête et de leurs joues, et leurs jambes étaient recouvertes d'écailles de serpents. Ils lançaient contre le ciel des rochers et des chaînes embrasées.
L'un de ces géants, un dénommé Alcyone, pouvait échapper à la mort tant qu'il combattait avec les deux pieds sur sa terre natale, un gars bien de chez lui. Selon une légende, Gaïa aurait posé une règle pour la guerre qui allait se déclencher entre les dieux et les géants. Les dieux immortels ne pourraient vaincre que s'ils étaient aidés par un mortel. C'était supposé rabattre le caquet de Zeus et des autres immortels, à qui il était signifié que contre des mortels, les géants, ils ne pouvaient pas se débrouiller tout seuls. Pour protéger ses fils, Gaïa a fait pousser une herbe médicinale qui rendait les géants invincibles face aux coups que leur porteraient les mortels venus aider Zeus. Mais Zeus a eu connaissance de cette herbe. Il demande alors à l'aurore, à la lune et au soleil de ne pas se montrer, d'arrêter le temps qu'il trouve cette herbe et l'accueille. Zeus rafle tout. Les géants sont vulnérables. La guerre peut commencer. On dit parfois que Zeus n'attendait que cette guerre. Il en aurait trouvé le prétexte. À l'un des géants, un dénommé Porphyrion, il aurait inspiré une passion amoureuse pour Héra, l'épouse de Zeus. Brute comme il était, Porphyrion essaye d'abuser de la déesse. Il lui déchire ses vêtements, Zeus, là-bas, de sa foudre. Dans leur combat avec les géants, les dieux ont d'abord du mal. Athéna, la fille de Zeus, appelle à son secours un humain, Héraclès, qui est un mortel et pas encore un dieu. Il est le fils de Zeus et d'une femme humaine. Son aide sera essentielle. Héraclès s'en prend à Alcyone, le géant qui ne peut mourir tant qu'il est sur sa terre d'origine. Héraclès commence par le percer de flèches, mais à chaque fois que le géant tombe à terre, il reprend des couleurs et attaque de plus belle. Athéna conseille alors de traîner ce géant hors de sa terre natale. Avec la force qu'il a, Héraclès le peut. Il tire Alcyone loin de chez lui et le supprime. Puis il estourbille pas mal de géants. La bataille est immense. Le camp de Zeus finit par la gagner. Ronsard, le poète de la Renaissance qui a chanté
« Mignonne, allons voir si la rose »
est nettement moins fleuri quand il raconte l'horrible guerre des géants. Il imagine que les astres du ciel se liguent pour aveugler les géants, puis c'est le carnage. Zeus, à savoir Jupiter, les foudroie.
Jadejda s'attaqua l'escarmouche odieuse. Quand des astres flambancent la troupe radieuse pour esblouir la veuille aux géants furieux, se vint droit te planter vis-à-vis de leurs yeux. Et alors Jupiter, du trect de sa tempeste, aux géantes aveuglaises écarbouilla la teste, leur faisant distiller l'humeur de leur cerveau, par les yeux, par la bouche et par les deux naseaux, comme un fromage molle qui suspendu ses gouttes, par les trous d'un panier, à terre goutte à goutte.
Les fils de terre de Gaïa sont éliminés. Zeus peut régner tranquille. Mais par la volonté de Gaïa, cette guerre a mis en avant un héros mortel, un humain, sans lequel les dieux auraient été perdus. Héraclès, cet homme qui abattra énormément de monstres, qui civilisera le monde, qui en passant, lors de l'un de ses innombrables voyages civilisateurs, délivrera Prométhée de l'abominable aigle sanguinaire qui le torture.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Thank you.
Pierre-Judée de la Combe évoque la guerre des géants, enfants de Gaïa, contre Zeus.
Les dieux ont abattu des adversaires monstrueux, les géants laits de la terre. Mais ils auront maintenant affaire à un humain dont la force leur a été nécessaire. Héraclès, un héros civilisateur qui met de l'ordre dans le monde et le rend vivable pour les sociétés humaines et aussi pour les dieux. Civilisés, les humains sauront rendre hommage aux dieux. Les dieux ne peuvent pas tout, ils ont besoin des hommes. Certains dieux en seront jaloux. Gaïa leur a fait la leçon. Gaïa, la déesse terre, est changeante, imprévisible. Elle peut engendrer un dieu raffiné, rusé, comme elle, Prométhée, qui parvient à concilier Zeus, dieu de l'ordre, du pouvoir, avec la force exubérante de la nature. Quand cette force naturelle qui renouvelle, qui fait vivre, devient l'habileté technique des humains. Ou bien, elle engendre des brutes forcenées comme les géants. Tantôt, elle aide Zeus à sa manière. Tantôt, elle est farouchement contre lui. Mais toujours, son but est que les humains, ces êtres faibles qui sont issus d'elle, puissent vivre. Il n'y a pas de grand récit, de grande épopée sur Gaïa. Seulement des histoires plutôt décousues. Mais je trouve, elles valent le coup qu'on aille y faire un tour. Celle-là, par exemple, qui nous dit comment, pour l'humanité, s'est établi le rythme des saisons dans la nature. Un jour, Gaïa va directement mettre sa puissance végétale à contribution pour aider Zeus à régler une question qui le préoccupait. Zeus a un frère, Hadès, le dieu à qui a été attribué le royaume des morts, les enfers, royaume d'ombre, plutôt moisi et glauque. Ce dieu infernal n'arrivait pas à se marier. Aucune déesse ne voulait l'épouser et s'enfermer avec lui dans son triste séjour. Zeus s'en inquiète. Il avait décidé de donner à son frère une fille à lui, la jeune et très belle Perséphone, qu'il avait eue en couchant avec une sœur, la blonde Déméter, déesse du blé qui pousse des fruits de la générosité productive de la terre. Gaïa va réussir à tendre un piège à cette Perséphone pour que le dieu Hadès puisse s'emparer d'elle. Ce piège est une fleur, un narcisse merveilleux. Perséphone jouait dans une prairie avec les filles du dieu océan. Elle cueillait des fleurs, raconte un poème. Un hymne à la déesse Déméter que les Grecs anciens ont attribué à Homère.
Déméter l'imposante, déesse aux cheveux parfaits. Je commence mon chant avec elle et avec sa fille aux fines chevilles qu'un jour Hadès des enfers enleva. Zeus, qui voit loin, qui gronde gravement, l'avait offerte à lui. Loin de Déméter dont brillent les moissons, loin de son épée d'or, elle jouait avec des filles au sein profond, les enfants d'océan. Elle cueillait des fleurs, roses et crocus, et belles violettes dans une molle prairie, l'iris et la jacinthe, et le narcisse, que Gaïa a fait lever pour tromper la fille à l'œil de jeune fleur.
Gaïa était en service commandé, elle obéissait à Zeus.
Zeus le voulait. Gaïa devait faire plaisir au dieu des enfers, Hadès l'hospitalier. Merveilleux, le narcisse brillait. À le voir, tous, ce jour-là, furent fascinés, dieux immortels et hommes mortels. De sa racine, 100 têtes avaient poussé. Leur parfum gagnait le large ciel jusqu'en haut, gagnait la terre entière et le gonflement salé de la mer. Tout se mettait à sourire. Elle, subjuguée, tendit l'une et l'autre main pour saisir le beau bijou. Mais la terre aux larges routes s'ouvrit dans la plaine de Nysa. Hadès, le seigneur en surgit, le grand hébergeur, avec ses chevaux immortels, ce fils de Cronos qui a tant de noms. Il la saisit, elle ne le voulait pas, sur son char doré. Il l'emmena, pleurante. Elle hurla d'une voix haute, elle appela Zeus son père, le fils suprême de Cronos, le meilleur. Mais aucun immortel, aucun homme mortel n'entendit sa voix. Même pas les oliviers, qui brillent de leurs fruits.
L'enlèvement cause une immense douleur à la fille, Perséphone, et à la mère, Déméter. La mère part désespérément à la recherche de sa fille. Personne ne veut la renseigner sur ce qu'est devenue sa fille par peur de Zeus. Seul le dieu Soleil, ce dieu qui voit tout et entend tout en parcourant le ciel avec son char, c'est vraiment l'opposé d'Hadès, le souterrain, lui dit quelque chose et raconte l'enlèvement par Hadès et ses chevaux. Déméter est encore plus désespérée. Elle décide de quitter la communauté des dieux. Elle décide de faire grève. Pendant une année, il n'y a pas de moisson, pas de blé qui pousse. Les humains connaissent la famine. Les dieux ne reçoivent plus d'offrandes.
La blonde Déméter vint s'asseoir là, loin de tous les dieux bienheureux, sans bouger, affaiblie par l'absence de sa fille à la ceinture profonde. Sur la terre qui nourrit d'abondance, elle fit une année terrible pour les humains, une année de chien. La terre ne faisait pas lever les semences, car Déméter à la belle couronne les tenait cachées. Souvent les bœufs tiraient pour rien dans les champs, les charrues recourbées, souvent l'orge blanc tombait à terre. Inutile. Déméter aurait exterminé toute la race humaine qui partage le don du langage dans une douloureuse famine. Elle aurait frustré les dieux qui habitent l'Olympe de leurs prestigieux privilèges et de l'hommage des sacrifices si Zeus n'y avait réfléchi et médité un plan dans son cœur.
Zeus comprend qu'il faut faire céder la mère de Perséphone, Déméter. Il essaye de la persuader de reprendre son travail de déesse nourricière. Elle refuse. Il envoie tous les dieux auprès d'elle pour la fléchir. Elle refuse encore et dit qu'elle ne changera pas d'attitude tant qu'elle n'aura pas revu sa fille. Le dieu Hermès, l'habile messager de Zeus, va trouver Hadès et parvient à le persuader de relâcher Perséphone, de la laisser retrouver sa mère. Hadès accepte, mais comme les divinités de l'ombre, il est rusé. Lors des adieux avec sa femme, il fait avaler à Perséphone, sans qu'elle le sache, un grain de grenade, doux comme le miel. Ce grain est en fait un filtre d'amour. Perséphone, une fois qu'elle aura quitté les enfers, éprouvera le désir de son sombre époux. Elle ne voudra pas rester tout le temps avec sa mère. Un arrangement peut alors être trouvé. Perséphone passera une partie de l'année, un tiers, chez son époux souterrain dans les enfers, quand la nature sera en sommeil. Le reste de l'année, quand commencera le printemps, quand les plantes sortiront de terre, fleuriront, puis offriront leurs fruits, elle sera à la lumière avec sa mère.
Quand dans le doux parfum des fleurs printanières, la terre en tout lieu s'épanouira, tu quitteras les vapeurs des ténèbres pour remonter ici. Grande merveille aux yeux des hommes mortels.
Perséphone, Déméter, la fille et la mère, à la fois réunies et séparées dans le temps, tiennent ensemble les deux éléments majeurs qui définissent la condition humaine. Les hommes, contrairement aux dieux, sont essentiellement des êtres mortels et des mangeurs de pain. Leur vie est condamnée à s'arrêter et ils vivent en travaillant pour se nourrir. Gaïa ne semble pas être intervenue directement dans cet accord. Mais le couple Déméter et Perséphone, les deux déesses, disaient les Grecs, réalisent ensemble les deux grandes pulsions de Gaïa. Faire croître le vivant, le faire prospérer à la lumière et passer par des moments obscurs et secrets de retrait, de repli pour préparer la génération nouvelle qui doit sortir de l'ombre. Gaïa, la force instable, imprévisible, à la fois majestueuse et secrète, a participé à sa propre domestication bienveillante pour les humains dans le rythme des saisons et du travail qui fait vivre. Gaïa protège les humains. Elle rend leur vie vivable. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas exagérer. Elle peut être féroce contre les mortels qu'elle a généreusement fait naître s'ils ne respectent pas de limites, s'ils font le malin contre elle et contre les êtres qu'elle a engendrés. C'est ce qui est arrivé à un chasseur grandiose dont nous voyons la constellation dans le ciel, le grand Orion. Ça s'écrit sans H, pas comme Orion le coup violent, même si des Orions, Orion en a donné plus que nécessaire avec sa massue. C'est une histoire qui finit mal. Être transformé en constellation dans le ciel n'est pas toujours joyeux. Surtout s'il y a juste derrière vous la constellation du Scorpion qui éternellement vous poursuit. Il y a plein d'histoires sur Orion, l'homme qui surpassait tous les autres par sa taille et sa force. Plein de récits se sont greffés sur lui. Essayons de suivre une trace.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
But it's hard to deny the beauty of can't pass by.
Pierre Jeudet de la Combe raconte les tristes aventures d'Orion, fils de Gaïa.
Orion était né de la terre, nous dit-on. Gaïa était sa mère. Parfois, on dit surtout qu'il était né de Poséidon, dieu de la mer. Et c'est pour cela qu'il pouvait marcher sur les eaux sans se mouiller les pieds, comme Poséidon pouvait faire voler ses chevaux et son char au-dessus des vagues. Mais circulait une histoire vraiment intéressante qui combine ses parentés en y ajoutant Zeus et Hermès. Cela fait trois pères pour Orion et Gaïa comme mère. Il fallait bien Hermès dans l'histoire, tant cette paternité est tordue. On la trouve chez un poète latin, Ovide, qui dans un long poème commente les grandes dates du calendrier romain. Nous sommes le 11 mai, moment où la constellation Orion se couche. Ovide raconte l'histoire de ce chasseur chassé dans le ciel par un scorpion tenace. Dans un coin perdu de campagne, en Béotie, il y avait un paysan pauvre, pas tout jeune, qui possédait un petit lopin de terre et un bœuf, un seul, pour le travailler. Il s'appelait Irieus, en grec Urieus. Or, nous dit Ovide, Jupiter et son frère Neptune un jour passaient par là. Le jeune Mercure les accompagnait. En grec, ce serait Zeus, Poséidon et Hermès. Le jour va tomber. Les agneaux vont aller téter leur mère. Le paysan Urieus voit les trois personnages qu'évidemment il n'identifie pas, debout devant la porte de sa cabane. Il leur propose de passer la nuit chez lui.
La route est longue et il ne reste plus guère de temps avant la nuit. Pour les hôtes, ma porte est ouverte.
Sa mine répond à ses paroles et il renouvelle son invitation. Ils acceptent son offre, mais cachent leur divinité.
Les trois dieux entrent dans la demeure noire de fumée. Le paysan ranime le feu, va chercher du bois pour que finissent de cuire dans deux marmites des fèves et des choux. Il offre du vin rouge, son vin courant. Et tend une coupe d'abord à Neptune. Le dieu boit et s'adresse au paysan.
Dès qu'il l'eut vidé,
donne à boire,
dit-il.
Maintenant, c'est le tour de Jupiter.
Au nom de Jupiter, le vieillard a pâli. Quand il s'est ressaisi, il immole le bœuf qui labourait son pauvre champ et le fait rôtir à grand feu. Le vin que jadis, enfant, dans ses premières années, il avait mis en jarre, il le tire de la réserve où il le conservait dans une jarre enfumée.
Les dieux sont ravis de ce festin copieux et servi dans une vaisselle toute simple, en terre rouge et en bois de hêtre. Content, généreux, Jupiter dit au paysan qu'il peut lui demander ce qu'il veut.
Si tu as quelque désir, exprime-le. Tu auras tout ce que tu voudras. Le paisible vieillard répondit.
J'avais une femme chérie, amour durable de ma première jeunesse. Vous demandez où elle est maintenant ? Une urne renferme ses cendres. je lui ai fait un serment en vous prenant à témoin. Tu seras, ai-je dit, ma seule épouse. Je l'ai dit et je tiens parole, mais en fait, j'ai un souhait qui contredit mon serment. Sans être époux, je voudrais être père.
Cela paraît impossible, mais les dieux ont réponse à tout. Ils se mettent debout devant la peau du bœuf sacrifié. Ils font de leur mieux pour l'humecter. Ovide, très pudique, refuse de nous dire comment. Puis, les dieux recouvrent de terre la peau mouillée. Gaïa participe ainsi à l'opération. 10 mois plus tard, un enfant est né. Le paysan Urius appelle ce fils Urion, car il est né par l'urine. Le nom s'est ensuite déformé, il est devenu Orion. Tout le monde dans l'Antiquité n'était pas d'accord avec cette analyse. L'enfant grandit démesurément. Il devient un chasseur redoutable avec son arc et sa massue. Il devient célèbre tellement il a tué d'animaux ravageurs. Orion est aussi un amoureux débordant. On raconte qu'un jour, arrivé dans l'île de Chios, il désire la fille du roi, un fils de Dionysos. Il essaye d'abuser de cette fille ou de la femme du roi, cela dépend. Le roi, aidé par son père Dionysos, crève les yeux d'Orion pour le punir. Poséidon, l'un des pères d'Orion, lui avait appris à marcher sur les eaux. Orion se rend à pied dans l'île de Lemnos, où le dieu du feu Héphaïstos avait ses forges. Là, il enlève un des forgerons, Kéladion. Il le met sur ses épaules et l'oblige à le guider vers les levées du soleil. Un ouvrier du feu terrestre, le feu des forgerons, conduit Orion vers le feu céleste. Orion s'approche de la lumière du soleil levant et recouvre la vue. On raconte que la déesse Aurore a voulu l'épouser. On raconte aussi qu'il est devenu très proche de la déesse de la chasse, Artémis. Il a été son garde du corps, nous dit Ovide. Avec elle, il chasse énormément. Fier de ses succès de tueur de bêtes, il se serait vanté sans aucune retenue.
Il n'y a pas de bête sauvage que je ne puisse vaincre.
Terre, Gaïa, n'aimait pas trop qu'on tue les animaux qu'elle fait vivre. Elle n'a pas apprécié du tout ses propos de massacreur. Toujours rusée et féroce, elle fait naître un animal ras du sol et mortel, avec son dard recourbé, un scorpion. Orion cherche à l'écarter. Il est piqué par la bête et meurt. Gaïa a ainsi, sans hésiter, décidé la mort de son propre fils, qui avait eu le tort d'abuser de la force qu'elle lui a transmise en l'utilisant contre les créatures qu'elle aimait. Orion est en partie sauvé. Artémis demande à Zeus de transformer son chasseur préféré en constellation dans le ciel. Zeus accepte, mais il fait suivre Orion de la constellation du scorpion pour que l'événement ne soit jamais oublié. Quant à l'âme d'Orion, elle erre toujours dans les enfers. Elle ne cesse d'y poursuivre, indéfiniment obsédée des bêtes à tuer. Ulysse, pendant son voyage chez les morts, l'a vue à l'œuvre.
J'aperçus le géant Orion, chassant les fauves, par le près de l'asphodèle, qu'il avait abattu dans les montagnes solitaires. Dans sa main, la massue indestructible, tout en bronze.
Gaïa ne pardonne pas quand on la maltraite. C'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine. Les enfants, chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide. Regardant le temps passer dans la rivière.
d'azur. Pardon, pardon. Précieux muguet, beau citron jaune. Pardon la flore, pardon la faune. Le jour se rêve sur les légumes, les enfants sur le bitume.
Nous continuerons avec les dieux à la nature. Nous ferons le tour de la terre sur l'eau avec le dieu océan et dans le ciel avec le char du soleil.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Andrea Lechêne. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurence Stocker. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Titouan Oex. Bonne journée sur France Inter.